Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 10 février 2016.
Le président tchadien Idriss Déby a été choisi par son parti comme candidat à la présidentielle d'avril.
Pour ce qui me concerne, vous pouvez être certain que je ne laisserai personne venir troubler cette paix pour assouvir des intérêts égoïstes.
Trois militaires maliens ont péri hier dans l'explosion d'une mine dans la région de Mopti.
Chômage des étudiants camerounais, seulement 10% trouvent du travail à la sortie de l'université.
L'ONU a appelé la Turquie à ouvrir sa frontière aux nombreux Syriens qui fuient l'offensive contre les rebelles à Alep.
Le Clean Power Plan de Barack Obama, suspendu par la Cour suprême des États-Unis.
Le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont largement remporté hier les primaires présidentielles du New Hampshire.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
L'exercice militaire annuel Flintlock a débuté cette semaine au Sénégal. Près de 1700 membres des forces spéciales d'une trentaine de pays d'Afrique, d'Amérique et d'Europe y prennent part. Le maître mot de cette formation est la coopération régionale entre les États d'Afrique de l'Ouest face à la menace djihadiste. Des détails avec Maëlys Hegel.
Combattre le terrorisme est en effet au cœur de la formation Flintlock. Le commandant des opérations spéciales américaines sur le continent africain, le général Donald Bolduc, a souligné plusieurs fois la nécessité de contrer la version des faits du groupe État islamique, son califat, ses actes au nom de la religion, ainsi que ses instruments de recrutement. Ces 12 derniers mois, les djihadistes ont été de plus en plus actifs. Les différents groupes ont désormais la possibilité de se rassembler pour combattre, mais aussi de se disperser en éléments plus petits pour lancer des attaques de type asymétrique. Le général Donald Bolduc a insisté sur l'utilité d'avoir un dispositif global bien équilibré entre le militaire, le policier et le non-sécuritaire. Pour la première fois depuis sa création, Flintlock axe sa formation autour de la connexion de la police au pouvoir militaire afin de réagir plus promptement à des possibles attaques terroristes. Depuis 2005, Flintlock est organisé par l'AFRICOM, le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Cet exercice vise à accroître la sécurité en Afrique de l'Ouest et promouvoir l'échange multilatéral des informations entre les nations.
En Centrafrique, dernière ligne droite cette semaine dans la campagne électorale, en vue du double scrutin du 14 février, l'Autorité nationale des élections a annoncé hier le retrait d'au moins 110 candidats aux législatives. Le point avec Freeman Sipila.
Les candidats à la présidentielle et aux législatives continuent de présenter leurs projets de société aux électeurs, aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Anissé Georges Doligili et Faustin Archange Touadéra, les deux concurrents à la présidence de la République, s'affronteront dans un face-à-face radio-télévisé le vendredi 12 février, dernier jour de la campagne électorale. Ce mardi, l'Autorité nationale des élections dit prendre acte du désistement de certains candidats aux législatives. Ils sont au moins 110 candidats à annoncer leur retrait de la course. Ils évoquent comme raison, en premier lieu, le manque des moyens financiers. Pour l'organe en charge des élections, malgré ce désistement, les noms des candidats concernés figurent toujours sur les bulletins de vote. Les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains sont attendus aux urnes le dimanche 14 février en vue du second tour de la présidentielle et du premier tour des législatives. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la défense du président Jacob Zuma a concédé hier devant la justice qu'il avait eu tort de ne pas rembourser une partie de l'argent public dépensé pour sa résidence privée. Idriss Fall nous en dit plus.
Jeremy Gauntlet, avocat du chef de l'État, a admis devant la Cour constitutionnelle que le président doit réparer son erreur. L'audience s'est déroulée sous la pression de la rue. 5000 partisans de l'opposition scandaient des slogans hostiles à M. Zuma. La Cour, qui doit déterminer si les recommandations de la médiatrice de la République sont contraignantes ou non, rendra son jugement à une date ultérieure. En 2014, Tuli Madonsela, chargée de veiller à l'utilisation des fonds publics, avait rendu son rapport accusant Jacob Zuma d'avoir indûment bénéficié des deniers publics pour rénover sa résidence privée. Elle avait recommandé qu'il rembourse une partie de l'argent. M. Zuma a toujours refusé de rendre un centime, mais à la surprise générale, la semaine dernière, il a admis l'idée de rembourser une partie sans donner de chiffres. Et demain, jeudi, il doit faire son discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. Les élus derrière le bouillant Julius Malema ont aussi promis de faire du bruit comme ils l'avaient fait l'année dernière pendant une pareille session parlementaire. Des élections locales cruciales sont prévues en août prochain.
Au Mali, 3 militaires ont péri dans l'explosion de leur véhicule sur une mine dans la région de Mopti, près de la frontière avec le Burkina Faso, a annoncé le ministre malien de la Défense, Tiemane Hubert Koulibaly. L'explosion s'est produite dans le secteur de Mondoro, à plus de 300 km à l'est de Mopti. Les forces armées maliennes déplorent 3 morts et 2 blessés évacués sur Mopti, a ajouté M. Koulibaly, qui a condamné cet acte et encouragé les FAMA dans leur lutte contre le terrorisme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le républicain Donald Trump et le démocrate Bernie Sanders ont largement remporté hier les primaires présidentielles du New Hampshire. Le point avec l'envoyé spécial de la voix de l'Amérique à Manchester, Thomas Camilindi.
Chez les démocrates, c'est sans surprise, comme les pronostics l'avaient annoncé, Bernie Sanders vient en tête. Très, très largement, avec 59-60% des voix contre 39-40% pour Hillary Clinton. Tandis que chez les Républicains, comme les pronostics aussi l'avaient annoncé, c'est Donald Trump qui vient en tête avec 34%. Son suivant immédiat, John Kasich, qui est le gouverneur de l'Ohio, vient loin derrière lui de 18 points. Et il est à 16%. Et derrière eux, il y a 3 autres qui réunissent au moins 10% des voix, ce qui fait que ce sont ces 5-là qui ont beaucoup, beaucoup de chances de poursuivre les primaires. Chez les Républicains, ce sera dans l'État de South Carolina, le 20 de ce mois. Ce même jour, les démocrates poursuivent leurs primaires dans le Nevada.
Le patron du renseignement américain, James Clapper, juge possible le retour à une forme de guerre froide entre les États-Unis et une Russie déterminée à défendre son statut de grande puissance mondiale. Des détails avec Nanit Talani.
Plusieurs actes tendent à créditer cette thèse, selon James Clapper, qui a cité l'intervention russe en Syrie, jugée comme étant la première utilisation significative d'une force expéditionnaire en dehors de l'ex-sphère soviétique depuis des décennies. En outre, le président russe Vladimir Poutine est le premier dirigeant depuis Staline à avoir accru le territoire russe avec l'annexion de la Crimée au printemps 2014. Par ailleurs, la Russie porte la guerre de l'information à un nouveau niveau. En plus, elle a développé un missile de croisière en violation du traité des forces nucléaires à portée intermédiaire, a expliqué le patron du renseignement américain, James Clapper. Les opérations cyber russes vont vraisemblablement viser des intérêts américains. De son côté, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, Sergei Kislyak, a reconnu lundi que les relations entre les deux pays sont dans une situation certes difficile, mais qu'il n'y a pas lieu de parler d'un retour à la guerre froide. Le diplomate russe s'est tout de même inquiété d'une expansion de l'infrastructure militaire de l'OTAN près des frontières de son pays.
Munich accueille demain le groupe international de soutien à la Syrie qui a adopté en novembre à Vienne une feuille de route diplomatique sur le conflit. Le texte réclame un cessez-le-feu et l'instauration d'un accès humanitaire aux villes syriennes assiégées. Le coordinateur général de la coalition de l'opposition syrienne, Riyad Hijab, rencontre aujourd'hui à Londres le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip Hammond, et à La Haye, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, accueille son homologue turc Ahmet Davutoglu afin d'évoquer des solutions potentielles à la crise des migrants.
La Cour suprême des États-Unis a suspendu le programme de lutte contre le réchauffement climatique du président Barack Obama. Elle avait été saisie par plus de 25 États qui contestent le plan de la Maison-Blanche visant à fortement limiter les émissions polluantes des centrales thermiques. Ces mesures sont au cœur des engagements qu'avait présentés Washington à la conférence sur le climat de Paris, qui avait débouché sur un accord entre 195 pays en décembre. La décision de la Cour, à la majorité de 5 juges sur 9, est un coup dur pour le président qui a fait de la lutte contre les gaz à effet de serre une priorité.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par John Lyndon.
L'Agence internationale de l'énergie a battu en brèche mardi les espoirs d'une remontée des prix du pétrole à court terme, confirmant que le monde devrait rester submergé d'or noir face à une demande fragile. Le bras énergétique de l'OCDE a démonté un par un les facteurs d'optimisme qui avaient permis au cours du pétrole de reprendre un peu de couleur ces derniers jours et de repasser au-dessus de la barre de 30 dollars le baril après leur chute autour de 27 dollars en janvier, point le plus bas en près de 13 ans. Le président des États-Unis a promulgué le 8 février une loi adoptée la semaine dernière par le Congrès qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique afin de fournir l'électricité à 60 millions de foyers dans la région. La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de 7 milliards de dollars et que Barack Obama a promu lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. La plupart des financements de cette initiative, côté américain, doivent venir de l'institution américaine publique Export-Import Bank. Le groupe pharmaceutique français Sanofi devrait être en mesure d'initier un essai clinique sur le virus Zika dans un an, mais le développement d'un vaccin ne pourrait pas se faire avant 3 ans, a affirmé mardi son directeur général Olivier Brandicourt.
Merci John pour cette page économie. Présent les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
Alors les léopards de la RDC ont été décorés hier à Kinshasa.
Oui, le président congolais Joseph Kabila leur a offert une quarantaine de véhicules tout terrain haut de gamme après leur victoire au championnat d'Afrique des Nations. M. Kabila a remis symboliquement les clés de ces véhicules lors d'une cérémonie. Il s'agit de 4x4 Toyota Prado TXL aux 23 joueurs, mais aussi aux 11 membres d'encadrement. Selon une source dans le milieu de la distribution automobile, la valeur unitaire d'un tel véhicule à Kinshasa est d'environ 55 000 dollars hors taxes, soit 30 millions de francs CFA.
Football Uruguay, Luis Suarez réintègre la sélection nationale.
Oui, selon l'AFP, le sélectionneur de l'Uruguay, Oscar Tabarez, s'est réjoui hier du retour de la star Luis Suarez après sa longue suspension pour morsure lors du Mondial 2014. Tabarez a rappelé l'important rôle de Suarez au sein de la Céleste, l'équipe nationale. L'attaquant du Barça avait été privé de 9 rencontres internationales après avoir mordu l'attaquant italien Giorgio Chiellini lors d'une rencontre de la phase de poule de la Coupe du Monde au Brésil en juin 2014.
JO 2016, le Kenya pourrait ne pas aller à Rio à cause du virus Zika.
Oui, si l'épidémie de virus Zika qui sévit au Brésil continue de s'aggraver, le Kenya pourrait renoncer à participer aux Jeux olympiques de Rio prévus du 5 au 21 août prochain. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le président du Comité national olympique kenyan. Le président de la Fédération kenyane d'athlétisme, Jackson Toué, a précisé que les autorités sanitaires nationales et le gouvernement seraient consultés avant qu'une décision ne soit prise. Le Brésil, il faut le rappeler, est à ce jour le pays le plus touché au monde par l'épidémie avec 1,5 million de patients, suivi par la Colombie avec 22 600 cas.
Et corruption dans le tennis.
Deux arbitres de tennis accusés de corruption ont été suspendus et 4 autres font l'objet d'investigations. C'est ce qu'a annoncé hier mardi la Fédération internationale de tennis. Le Kazakh Kirill Parfenov a été suspendu à vie en février 2015 après avoir contacté un officiel en vue de manipuler le résultat de match. Le Croate Denis Pitner a lui écopé d'une peine d'un an en août dernier après avoir notamment transmis à un entraîneur une information sur la santé d'un joueur et parié sur des rencontres. Selon le quotidien britannique The Guardian, qui a révélé l'affaire, les faits se sont produits sur le circuit Future Tour, le plus bas niveau du tennis professionnel lors du tournoi en Europe de l'Est. Et puis pour terminer, Nathalie, les résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, San Antonio a remporté le match face à Miami, 119-101. Une défaite des Boston Celtics face aux Milwaukee Bucks, 111-112. Les Washington Wizards l'ont emporté contre les New York Knicks, 111-108. Utah Jazz contre Dallas Mavericks, une victoire, 121-119. Et une défaite des Houston Rockets contre les Golden State Warriors, 110-123.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. L'élection présidentielle au Niger se tiendra le 21 février. 15 candidats sont en lice. Lancée fin janvier, la campagne suit son cours normal, avec cependant des interpellations de militants de partis d'opposition. Le point dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
La campagne se déroule sans incident majeur. Il reste néanmoins que la situation carcérale d'un des candidats la domine. Ajoutée à elle, celle de plusieurs responsables de son parti et récemment encore de la cantatrice de la même formation politique, le processus inquiète notamment les acteurs de la société civile. Moussa Tiangari, de l'association Alternative Espace Citoyen.
Le maintien en détention d'un des candidats de l'opposition, en l'occurrence M. Hama Amadou, ainsi que les chants d'une victoire annoncée du président sortant au premier tour sont les principaux ingrédients du climat des tensions politiques actuelles. Cette situation a conduit les partis politiques de l'opposition à ne pas signer le code de bonne conduite proposé par le NDI.
Le responsable régional de Maradi du parti de Ibrahim Yacouba, candidat aussi à la présidentielle du 21 février et lui aussi depuis lundi soir arrêté par la police régionale de Maradi. Pour le reste, chacun des 14 candidats poursuit normalement ses rassemblements dans les différentes régions. Le candidat président Issoufou Mahamadou vient par exemple de terminer satisfait avec 2 des 8 régions du Niger.
Je n'ai aucun doute, en tout cas c'est ce que j'ai noté comme message de la part des populations. Les populations sont prêtes pour que cette aventure avec nous continue pour les 5 années à venir. Il y a 43 partis qui me soutiennent. C'est un argument supplémentaire pour croire que les populations ont raison de dire qu'il n'y aura pas 2 tours à l'occasion de cette élection. Il n'y aura qu'un seul tour.
Dans son fief de Tillabéri, le candidat Amadou Boubacar Cissé écarte cette idée d'un passage dès le premier tour du président sortant.
Nous ne les laisserons pas. Il faut qu'ils le sachent. Il n'est pas question aujourd'hui d'accepter que le PNDS puisse passer au premier tour. Ils sont minoritaires dans ce pays, eux et leurs alliés, et ils le demeureront minoritaires. Et c'est l'opposition aujourd'hui qui a la majorité dans ce pays.
Le chef de file de l'opposition, Seydou Mourou, est à Agadez. L'ancien président de la République, Mamman Ousmane, lui, n'a débuté sa campagne que ce mardi par la région de Diffa où sévit la secte Boko Haram. Les autres candidats se font, eux, plutôt discrets, certains ayant choisi la stratégie du porte-à-porte pour convaincre les électeurs. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été choisi par son parti, le Mouvement Patriotique du Salut, comme candidat à la présidentielle du 10 avril. Au pouvoir depuis qu'il a renversé Hissène Habré en 1990, le dirigeant tchadien a déjà été élu président 4 fois. Voici un reportage d'André Komadjingar.
Je sais que vous attendez simplement la bataille pour en coudre définitivement avec ces rigolos-là.
Premier tour.
Aussitôt investi, Idriss Déby Itno qualifie ses adversaires de rigolos puisqu'ils n'ont pas de poids politique pour faire face à lui. Il promet donc la victoire dès le premier tour, alors que la société civile dans son ensemble, à l'exception de celle proche du pouvoir, exige sa démission dans plusieurs sorties médiatiques. Le secrétaire général du Mouvement Patriotique du Salut, parti au pouvoir, Emmanuel Nadingar, loue les mérites de son candidat.
J'entendais un Africain dire « J'aime avoir Idriss Déby comme président de mon pays. » Notre parti n'a que s'inquiéter de sa victoire car notre candidat est le profil idéal.
Toutefois, il reconnaît que certains citoyens sont mécontents de la gestion des ressources du pays.
Une partie de nos populations est tous les jours frustrée par nos propres militants en position d'autorité qui mévendent les idéaux du parti par des actes d'injustice pour justifier les intérêts du parti. Cette donne n'est pas à omettre dans les prochaines campagnes électorales. Il nous faut travailler pour réconcilier l'administration avec les administrés.
Très fier de la confiance renouvelée en sa personne par ses militants, le candidat du MPS mesure déjà la tâche qu'il attend et affirme qu'il sera le candidat de tous les Tchadiens.
Une telle marque de confiance impose d'énormes responsabilités devant lesquelles je ne saurais me dérober. Par conséquent, je serai votre candidat et le candidat de tous les patriotes. Pour ce qui me concerne, vous pouvez être certain que je ne laisserai personne venir troubler cette paix pour assouvir des intérêts égoïstes.
À ce jour, 7 candidats sont déjà investis pour accéder à la magistrature suprême. André Koduma Dingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Guinée, les radios, télévisions et journaux en ligne n'ont pas fonctionné mardi en réponse à une journée sans presse voulue par les journalistes. Nos confrères guinéens protestent contre la mort par balle d'un des leurs vendredi lors d'une dispute politique entre militants du parti UFDG. Le point avec Zakaria Camara à Conakry.
La journée sans presse demandée par les journalistes guinéens a atteint son objectif. Les radios privées éteintes, les radios d'État sans programme, les sites internet bloqués avec une seule page qui affiche la photo du journaliste tué vendredi. Une action que comprennent les Guinéens.
Si l'acte là continue, aucun jeune dans le pays ne veut être journaliste.
C'est vraiment un signe fort qu'ils sont en train de lancer à l'endroit du gouvernement et à l'endroit des partis politiques en question.
Pourquoi toujours les journalistes? Donc il est évident qu'ils partent jusqu'au bout de leurs idées. Donc je crois qu'ils sont obligés de forcer la situation afin qu'ils atteignent les objectifs.
Nous comprenons cette décision parce que en fait, les assassinats comme ça, il faudrait lutter pour arrêter ça.
Même si les Guinéens adhèrent au combat des journalistes pour la justice, certains semblent défendre leur droit à l'information.
Franchement, en tant qu'auditeur d'une fréquence, je trouve que c'est pas tout normal. Parce qu'aujourd'hui, généralement, moi, j'écoute la radio. Et si aujourd'hui, il n'y a pas la radio, et comment je peux écouter? Comment je peux m'informer?
Une journée sans presse, c'est comme une journée sans vie. La presse ne m'informe pas. C'est comme si on était dans l'obscurité.
Une journée étouffante, hein? On peut le dire, parce que sans la radio, c'est pas du tout bon. Il y a d'autres qui n'ont pas le temps de suivre la télé, mais avec la radio, on peut suivre toutes les informations. Donc une journée sans presse, moi je trouve que c'est une journée morte.
C'est un peu difficile pour nous de rester comme ça, les oreilles bouchées.
Après une marche, après une journée sans presse, les journalistes guinéens ont décidé de bouder toutes les activités de l'UFDG jusqu'à ce que le tireur soit mis à la disposition de la justice. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Le Cameroun célèbre demain la Journée nationale de la jeunesse, alors que beaucoup de jeunes se posent des questions sur leur avenir. Plus de 30 000 étudiants terminent l'université chaque année et moins de 10% trouvent du travail. Voici un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kwinzeka, présenté par Michel Joseph.
Ils sont des milliers de jeunes rassemblés à Tiko, dans le sud-ouest du Cameroun, pour le lancement des activités de la Journée nationale de la jeunesse. Cette année, la 50e édition a pour thème « Les jeunes, la citoyenneté et la lutte contre l'insécurité pour un Cameroun émergent ». Chante malgré le chômage et l'insécurité dans le nord avec des attaques de Boko Haram. Stanley Beke, 24 ans, vient de finir l'université. Son rêve, c'est partir vers un Eldorado lointain, mais les moyens lui font défaut.
C'est vraiment frustrant pour un jeune de terminer les études avec un diplôme en poche et réaliser qu'il n'y a pas de travail dans le pays. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont forcés d'aller à l'étranger. Certains s'enferment dans les cales de bateaux juste pour se retrouver ailleurs. Beaucoup de jeunes veulent quitter parce qu'ils ne voient pas d'avenir dans ce pays.
Pour Jean-Marc Afezim Bafor, président du Conseil national de la jeunesse, le plus grand problème, c'est un système éducatif anachronique mis en place à l'époque coloniale. génial pour former des fonctionnaires. Selon lui, si l'éducation était professionnalisée, le Cameroun formerait des jeunes pour créer des emplois et non pas se bousculer au portillon d'une fonction publique déjà saturée.
On nous dit qu'en Chine, les calculatrices sont fabriquées à partir des écoles secondaires. Nous pouvons faire pareil et contribuer au développement de ce pays. Le chef de l'État parle souvent de développement technologique et nous savons que nous ne pouvons parler d'émergence sans développement industriel et technologique.
Mouté Abidias, directeur général du Fonds national pour l'emploi, apporte des réponses, c'est-à-dire faire des prêts pour démarrer un business, ouvrir une ferme ou faire de l'élevage. Aussi, son organisme a négocié avec des entreprises pour recruter et former des jeunes dans plusieurs domaines en contrepartie d'un allègement fiscal.
Nous avons 100 000 entreprises au Cameroun. Si la moitié de ces entreprises, c'est-à-dire 50 000 recrutent chacune, juste une seule personne, nous aurons 50 000 emplois cette année. Imaginez si ces entreprises recrutaient 2 ou 3 jeunes, combien ça ferait ?
D'après le site World Factbook, le taux de chômage au Cameroun est de 30%, mais l'Institut national de la statistique avance un taux de 70%. Pour Mounouna Foutsou, ministre camerounais de la jeunesse, ces chiffres rendent encore plus vulnérables les jeunes face aux groupes terroristes.
L'économie de plusieurs pays producteurs de pétrole est affectée par la chute des prix. Et le premier producteur d'or noir en Afrique, le Nigeria, ne fait pas exception. Les analystes prédisent une année difficile. Voici un reportage de Chris Stein à Lagos, relaté par Jacques Aristide.
Le sort de la plus grande économie d'Afrique a longtemps été étroitement lié avec le prix du pétrole. Les cours du brut ont chuté à $35 le baril depuis leur dernière augmentation en 2014, ce qui fait craindre les analystes. Bismarck Rewane, directeur du cabinet conseil Financial Derivatives Company, basé à Lagos. L'impact de la baisse des prix du pétrole est catastrophique, en ce sens que, en termes d'ampleur, c'est énorme. Mais en termes de préparation pour faire face à une telle catastrophe, c'est totalement mal préparé. Le Nigeria produit plus de 2 millions de barils par jour, ce qui confère au pays le titre de premier producteur africain de brut. Environ 70% des recettes publiques provient des ventes de brut, tandis que le Bureau national des statistiques indique que le pétrole représente 69% des exportations du pays. Cette dépendance au pétrodollar met le Nigeria dans une position vulnérable lorsque le prix dégringole à ce point, d'après le chef de recherche sur l'énergie à Ecobank, Dolapo Oni. Le pétrole est essentiellement la principale source de revenus du gouvernement pour gérer l'économie ou pour exécuter son budget. Et c'est ce qui incite vraiment aux investissements dans l'économie nigériane, affirme Oni. Le président Muhammadu Buhari a été élu en 2015 sur la base notamment de promesses de création d'emplois et de lutte contre la corruption. Il a récemment proposé un budget qui dépasse de 25% environ celui présenté l'an dernier, un nouveau budget qui comprend de nombreux investissements dans les infrastructures. Mais pour l'analyste Rewane, l'actuel prix du pétrole pourrait contraindre le gouvernement à retarder une partie de ses projets. Si les promesses attendent d'être concrétisées alors que le gouvernement dépense de l'argent sur des projets luxueux et grandioses, nous nous retrouverons alors avec une crise. Mais si le gouvernement est perçu comme étant austère et judicieux dans ses dépenses, retardant la réalisation de ses promesses jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore, vous pouvez alors vous en tirer d'affaire. soutient Rewane. Le bas prix du pétrole peut mettre à mal l'agenda du président Buhari. Mais d'après Oni, cette situation pourrait également inciter le gouvernement à apporter des changements majeurs dans l'industrie pétrolière. Ces changements comprennent notamment la fin du régime de subvention du carburant qui, selon des détracteurs, entraîne le gaspillage et la corruption. Changements également pour la réforme de l'entreprise publique, la Nigerian National Petroleum Corporation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était John Ellison. Et avec vous à la présentation, Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Bon mercredi à toutes et à tous.